RBA FM Auvergne-Limousin, RBA.
Bonjour et bienvenue sur RBA, Eric Ziolo.
Bonjour Philippe.
Éric Ziolo, maire de Bort-les-Orgues, conseiller départemental, vice-président de l'Interco. Éric Ziolo, Jean-François Marmontel, dramaturge et philosophe du XVIIIe siècle, d'origine bortoise, disait qu'il est des vérités qu'on ne peut dire qu'à son ami intime. Alors, considérant le fait que vous êtes également, en plus de vos fonctions électives, président de RBA FM, je vais flirter avec l'idée que cette radio est quelque part une amie intime pour vous, Éric Ziolo, et qu'à cet ami, vous allez... Et au-delà, bien entendu, à ses auditeurs, vous allez confier vos projets pour la cité dont vous êtes le premier magistrat. En êtes-vous d'accord ?
Allez, on y va.
Parfait. Donc, vous l'aurez compris, Éric Ziolo, maire de Bort-les-Orgues, est mon invité. Nous allons ensemble parler des projets et aménagements à venir sur et pour la ville de Bort-les-Orgues. Éric Ziolo, j'ai noté dans votre édito de la revue municipale de janvier dernier des mots, vos mots, qui résonnent avec la conjoncture actuelle. Augmentation des coûts de l'énergie, maîtrise, capacité d'investissement, économie au pluriel, etc. N'est-ce pas quelque part aujourd'hui laborieux de gérer une municipalité face à toutes ces problématiques environnementales ?
Disons qu'il faut les prendre en compte et qu'on n'a pas trop le choix. Elles s'imposent à nous, on l'aurait bien évité, mais elles s'imposent à nous. Et moi et mes collègues, on a eu à faire face à des augmentations, et comme les particuliers d'ailleurs. Électricité et gaz notamment, ça veut dire que ça nous oblige à nous questionner sur l'utilisation que l'on fait des espaces publics, des bâtiments publics. Et nous, on est très concernés. Quand on a par exemple une piscine chauffée, quel dossier, hein ?
Mais quelles mesures vous avez prises dans l'urgence afin de vous adapter au mieux pour continuer à investir sur vos projets sans impacter le porte-monnaie de vos concitoyens ?
C'était le but, puisqu'il ne s'agissait pas d'aller restreindre non plus, d'aller diminuer les travaux qu'on avait prévus ou d'augmenter le prix des tarifs pour assurer le financement. Donc on va dire que à la même pression qu'on exerce sur l'usager quand il paie la piscine, quand il paie la cantine, etc., la même, c'est-à-dire on a décidé de ne rien augmenter, on gère autrement. Alors ça a été de la concertation avec le milieu associatif notamment. On avait organisé une réunion à Jean Moulin pour leur exposer la problématique et de voir avec eux comment on allait ensemble utiliser au mieux les salles. Alors en résumé, ça a été, si vous prenez par exemple, on exclut l'école, on ne peut pas trop jouer sur le chauffage.
Non, je pense que non. Oui.
Voilà, mais sur d'autres équipements, le grand hall, le gymnase du lycée, à partir du moment où il y a de l'activité sportive, on a demandé aux associations d'en avoir un usage, on chauffe moins.
Oui, hein, voilà. Mais tout en priorisant certains secteurs ou certaines structures.
Ah oui, c'était pas question de généraliser à tout. Hein. On a fait attention à quel public était concerné, en fait.
Éric Ziolo, les investissements de la ville vont se concentrer, entre autres, sur l'amélioration de l'habitat et, par déduction, sur la revitalisation de la commune. Vous dites vouloir regagner de la population, ajoutant qu'en 50 ans, le nombre d'habitants a chuté de 50%. Cependant, le déclin démographique qui impacte les petites villes de France comme Bort-les-Orgues est lié par la désindustrialisation qui engendre ces pertes de population et une paupérisation. Mais comment être aujourd'hui en mesure d'attirer de nouvelles activités économiques sur le territoire qui n'est plus ce qu'il était il y a 50 ou 60 ans ?
Oui. Alors, si vous voulez, sur Bort-les-Orgues, je me suis assez vite rendu compte, effectivement, pour y être né, hein, qu'on a perdu de la population. Si je rapproche cette perte de population au nombre de commerces, on voit bien qu'on a moins de commerces aussi. Si je le rapproche au nombre de grandes surfaces, on n'en a pas moins. Et si je le rapproche au nombre d'emplois industriels, mis à part le coup dur qu'on a tous connu, hein, l'étannerie, la Soco, etc., on a eu un autre passé. Il n'empêche qu'aujourd'hui, quand même, entre le petit réseau, mais solide quand même, de PME que l'on a, et l'entreprise Tolomei,
Tissu industriel important.
Il y a un tissu, on est le deuxième bassin d'emploi sur la Haute-Corrèze. Donc, je me dis qu'on est loin d'avoir tout perdu. Il y a même des PME de l'industrie qui s'est bien comportée. 450, 500 salariés dans le cuir aujourd'hui, c'est pas négligeable. Et pour autant, on a continué à perdre de la population. Donc, il arrive à un moment où il faut appuyer sur la pédale en quelque part pour se dire comment je redynamise. Comment je redynamise mon offre de logement. Si on regarde la typologie du logement sur bord, on va se rendre compte qu'il y a tout le béton fait après la période du barrage et puis il y a aussi le centre ancien. Le particulier, le privé, a des initiatives et on essaye de l'accompagner. Mais ça ne va pas toujours assez vite. Ce n'est pas qu'on est pressé, mais c'est qu'autour de nous, ça peut bouger aussi. Regardez comme nos communes périphériques ont pu accueillir des Bortois que l'on ne peut pas accueillir sur bord. Et donc, on s'est dit qu'au bout d'un moment, il faut chercher les opportunités de bâtir, de construire. Parce qu'à côté de ça, il y a des attentes. Moi, je vois des gens, des jeunes salariés qui recherchent et qui ne trouvent pas, qui ne sont pas dans le social, qui ne sont pas non plus dans le trop gros loyer, et bien qui sont de simples salariés. Ils sont juste au-dessus, vous savez, c'est les histoires du truc plafond, là. Ils ont un petit euro au-dessus du plafond qui les fait... Voilà, ils ne sont plus dans la catégorie sociale et là, et bien, ça patine et ils vont ailleurs. Et je pense qu'il nous faut donc une offre nouvelle pour essayer de garder ces jeunes salariés.
Ceci étant dit... Améliorer l'habitat passe nécessairement par la démolition et les coups de godet de pelleteuse se sont fait entendre dernièrement sur Bord-les-Orgues.
Oui, vous avez raison de le souligner parce qu'en fait, on ne construit pas, à mon sens, sans purger ce qui ne répond plus aux attentes. On fait référence ici à un partenaire avec lequel on va travailler qui est Corrèze Habitat, qui était gestionnaire de plusieurs dizaines de logements sur Bord, 70% de vacances. Donc ça veut dire que comme n'importe quel gestionnaire, on s'interroge. On a convenu, surtout eux, mais on a travaillé dans ce sens-là avec eux, pour que, ça avait commencé d'ailleurs à l'époque de mon prédécesseur, puisqu'il y avait déjà eu des démolitions à la plantade. Et donc, ils ont inscrit petit à petit dans leur programme d'investissement de nouvelles démolitions. C'est aujourd'hui le quartier du Pré-Montjal qui est concerné, avec pas moins d'une cinquantaine de logements qui vont tomber. Alors vous me direz, mais pourquoi on détruit d'un côté, on refait de l'autre ? Non, c'est qu'en fait, on purge le logement
qui n'était plus
louable, pour repartir sur du logement qui répond aux attentes. Voilà, c'est exactement le défi qu'on a à faire aujourd'hui. Mais alors après, il faut aller chercher les dispositifs.
L'an dernier, le Sénat a adopté de nouvelles dispositions favorables aux futures communes d'accueil pour l'implantation de nouveaux locaux de gendarmerie. C'est aussi un projet bortois dont la candidature, si je ne m'abuse, a été retenue. Réponse 2023. Nous y sommes.
Alors, on nous a dit... Alors, on a déposé un dossier, brièvement l'historique de ces dossiers. Très vite, les gendarmes sont venus nous voir en nous disant « Ben voyez, on parlait du logement. » Mais en fait, pour les gendarmes, c'est pareil.
C'est exactement la même chose.
Voilà. Les locaux qu'on leur propose aujourd'hui ne correspondent plus aux attentes. Et bien que ce soit des gendarmes, je ne sais pas s'il faut le présenter comme ça, si les lieux qu'on leur promet pour les accueillir ne correspondent pas, eh bien ces lieux-là ne sont plus sollicités par les nouveaux gendarmes. Et on risquait donc, si on ne réagit pas,
de perdre
une gendarmerie. Donc, tôt ou tard, il faut s'y pencher. On a cherché le terrain qui convenait. Ils ont candidaté sur le terrain l'ex-foyer jeune travailleur, qui en même temps, du coup, a été tombé par Corrèze Habitat pour préparer cette arrivée. Pas seulement, si jamais demain on nous annonce, malheureusement, que la gendarmerie n'est pas là, parce qu'on aura le résultat de notre candidature en mars.
D'accord, hein, on y reviendra.
C'est pas trop mal parti, mais résultat en mars quand même.
Mais ceci dit, comment sont financées ces structures ? Est-ce que ces travaux sont pris en charge par les communes et les EPCI ?
Non, alors c'est un partenariat avec Corrèze Habitat. Nous, en fait, la commune, c'est de trouver un terrain. Notre seul engagement dans l'histoire, c'est de rétrocéder ce terrain à l'euro symbolique.
Mais il est tout de même urgent là aussi, et vous l'avez dit, de porter une attention particulière sur l'amélioration des bureaux et logements des gendarmes. Si l'on considère l'état des bâtiments, ben, tout simplement un peu vieillots, qui ne répondent plus aux critères et normes énergétiques. On reste encore un instant sur la thématique revalorisation, Éric Ziolo, avec cette fois-ci une reconversion de la friche industrielle de la manufacture corrézienne de vêtements, la MCV, plus communément appelée autrefois l'usine MAS. Quels sont les priorités de reconversion que vous avez identifiées sur ce que je serais tenté d'appeler ce patrimoine industriel bortois?
Oui, alors on en a un de sûr scénario aujourd'hui et on retombe sur la thématique logement puisqu'on est sur en fait 6000 m² en plein centre-ville. Donc c'est un autre volet du partenariat avec Corrèze Habitat où une partie, ou peut-être la totalité, je m'expliquerai, de ces 6000 m² seront consacrés à du logement, encore une fois. Alors, peut-être qu'une partie seulement, mais la plus grosse. Allez, on va dire, on va se réserver 1000 m² qui sont encore dans l'indécision. Indécision, deux pistes possibles. Soit l'étude en cours nous dit que le bâtiment le plus ancien de cette friche, qu'on a surnommé le carré Mègemont, de la famille Mègemont, qui fabriquait des chapeaux.
Bien sûr, à la plantade.
Voilà, donc on peut le garder moyennant des coûts raisonnables. Et à ce moment-là, on peut envisager d'y loger une activité socio-éducative, par exemple. Soit ce bâtiment n'a pas d'avenir à des coûts raisonnables. Moi, je pense que la partie de terrain qui serait libérée sur le Carimège-Mont. C'est le deuxième scénario possible d'utilisation de cette friche. À côté de l'habitat, sur les 1000 m² qu'on dégage du Carimège-Mont, on peut concevoir une zone partagée Corrèze Habitat-Ville. Parce que si on regarde bien, on est en quelque part dans la ville. On s'en est à peine éloigné, on est en queue de ville, on va dire. Pas très loin du centre et de l'emplacement Montel. C'est donc possiblement du parking, c'est possiblement une zone de jeu pour les jeunes, c'est possiblement un peu de paysager, c'est possiblement de l'environnement.
Donc vous avez tout le champ des possibles sur cette friche.
Donc voilà.
D'accord. Voilà. Je me permets une petite parenthèse. Nous l'avions déjà d'ailleurs souligné ensemble lors d'un entretien sur ces bâtiments. Il est à noter la présence dans ces locaux d'une charpente métallique qui avait été réalisée à l'époque par les ateliers Gustave Eiffel. Ouais. Donc Bort-les-Orgues recèle quelques traces du génie architectural de l'ingénieur et industriel français, un petit peu de son ADN.
C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que ce bâtiment, quand même, nous fait vraiment très réfléchir, parce qu'on étudie toutes les possibilités de pouvoir le garder. C'est pas n'importe quoi. Alors, on se dit que si on est obligé de s'en séparer en partie, est-ce qu'on pourrait pas garder au moins sa quintessence, par exemple, les poutres Eiffel ? Imaginons, je rêve peut-être, imaginons demain à cet endroit-là, un jardin avec des poutres Eiffel apparentes qui pourraient supporter un petit éclairage dessus. Pour un petit terrain de boules dessous ou de jeu, ça aurait quand même de la gueule. Donc, on ne laisse rien passer sur ce passé quand même de bord. Et si on peut en garder un témoignage ou tout, on le fera.
On poursuit cet entretien sur les projets et travaux à Bort-les-Orgues, puisque vous êtes, pour cette raison, mon invité pour cet hebdo qui vous est consacré. Pour toutes les communes de France et de Navarre, les travaux d'assainissement sont des opérations volumineuses mais incontournables. Et quand on parle d'assainissement, c'est moins glamour que fleurissement. Mais pour une commune, la réfection des conduites d'eau est essentielle. Et là aussi, Éric Ziolo, plusieurs phases de travaux sont prévues.
Oui. Fleurissement, on a deux petites fleurs, Philippe, qui sont revenues là, ça y est, c'est bon, le label a été renouvelé. Alors pour l'assainissement, ça se voit moins et quand on les réalise, sur le coup, ça peut faire beaucoup de mécontents, on creuse la route, bon bref, on n'est pas très sympa sur le coup, mais ô combien utile. Bon, sur bord, la municipalité précédente, quand elle faisait les travaux, réalisait ce qu'il y a dessous, c'est normal, c'est logique, donc bien agir.
On ne va pas démolir du neuf pour, voilà.
Exactement. Donc on continue. On rentre plus spécialement dans le schéma d'assainissement, c'est-à-dire un programme pluriannuel, finalement, d'investissement. Et sur 2023, on aura l'acte 1 de ce schéma sur la route de Champs. Il faut savoir que Bort, l'ensemble de son réseau, qui n'a pas été fait, est à refaire. Donc, c'est vraiment des
c'est
travaux
lourd.
Impactants. Mais ô combien nécessaire, je vous prends qu'un exemple. Et on voit aujourd'hui tout l'intérêt majeur de l'eau, on voit bien combien il en manque de plus en plus. Alors on se dit, oui, mais là, tu n'es pas dans l'eau potable, tu es dans l'assainissement. Ben, on est un peu dans tout, parce que si on refait l'assainissement, on refait aussi l'eau potable. Et aujourd'hui, les eaux de pluie, pour la plupart, lorsque ça n'a pas été encore refait, se mélangent aux eaux usées, alors que ça pourrait très bien repartir à la rivière. C'est tout le but des travaux aujourd'hui. Faisons en sorte que ce qui vient du ciel, qui est encore propre, reparte à la nature, comme il nous est arrivé. Ça nous évitera de le traiter par la station. Et puis, de toute façon, évitons les fuites, évitons tout ça. Enfin bref, c'est d'un intérêt majeur.
Il y a une volonté éco-citoyenne derrière tout ça.
On n'a pas le choix. Environnement, coût de l'eau à la fin, éviter le gaspillage, tout simplement. L'eau, ça devient majeur.
Mais en ce qui concerne ces travaux, je les qualifierais d'assez ingrats, puisqu'ils sont finalement souterrains.
Souterrains.
Ils représentent un coût important pour une
commune. Coût important, qu'on aimerait qu'ils soient encore mieux subventionnés. Bon, là, l'agence de l'eau, sur les travaux d'assainissement, même pas d'eau potable, sur les travaux d'assainissement, on prend en charge 50%. Bon, c'est toujours ça. Mais une opération comme la route de Champs, c'est du 700-800 000 euros, tout confondu. Donc, ce n'est pas neutre. C'est un passage obligé. C'est un budget annexe pour la commune. Donc, c'est un budget annexe qui se porte pas trop mal, heureusement pour nous. Voilà, disons qu'il faut l'avoir en tête et puis, pour le digérer, l'étaler dans le temps, quoi.
L'hebdo sur RBA FM, suite et fin. Assainir, embellir, revitaliser, améliorer, ne serait-ce pas des fondamentaux pour Éric Ziolo ?
Tout à fait. Moi, vous savez l'attachement que j'ai, bon, encore plus à ma commune de naissance, mais plus globalement à la ruralité. J'y crois vraiment, mais dur comme fer.
Quoi. On l'avait dit, c'est une chance.
Grande chance. Donc, l'embellissement d'une commune rurale aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Ça, je veux bien y mettre mes deux mains au feu.
Projet phare de votre mandat, Éric Ziolo, c'est la voie verte. Ou comment relier Bort-les-Orgues au Cantal proche par le biais d'une piste pédestre et cyclable ? Pourquoi ce projet est-il un projet structurant selon vous ?
Alors, on a l'opportunité d'avoir une double voie ferrée avec d'un côté un train touristique et de l'autre une voie qui était désaffectée. Bon, donc on essaye de tirer profit de ça. Et grâce au partenariat avec Gentiane et à l'écoute qu'on a eue de la SNCF, aujourd'hui c'est réalisable. Deuxième deal, il fallait obtenir donc le financement. Ici, en l'occurrence, ça sera porté par Haute-Corrèze Communauté. Hein.
Voilà, $1,3 million, je crois.
Voilà, les travaux de la voie. Hein. Mais par contre, si vous voulez, pourquoi ça peut être un projet très structurant? Parce que cette voie a l'originalité, pour moi, de traverser une ville. Elle traverse notre ville de part en part. Et que si on connecte cette voie au reste de la ville, si on organise le flux que cette voie va apporter, et on sait que ça marche côté Cantal, donc il n'y a pas de raison, à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut avoir une voie de redirection de ce flux vers le centre-ville. Et un marcheur, c'est un chaland, c'est un client potentiel pour nos commerçants ou pour nos terrasses de café. Voilà, en bref, comment je pourrais dire que ça peut être structurant.
En somme, cette voie va longer les hauteurs de bord depuis la voie ferrée. Vous en avez parlé, qui restera un accès, vous l'avez dit également, un accès sécurisé pour le passage du train Gentiane Express.
Tout à fait. Il y aura d'un côté, c'est une double voie, donc il y aura d'un côté le train touristique, à qui ça donne des idées d'ailleurs. Bon, ça serait à lui d'en parler, mais effectivement, ça se complète les deux en fait. Et de l'autre, vous aurez une voie de circulation douce. Donc moi, je trouve assez sympa qu'il y ait d'un côté une drésine, 25-30 km/h, la séparation...
Ou une Micheline, c'est un peu...
la séparation des deux voies, hein, conformément aux exigences de sécurité de la SNCF, mais transparente pour qu'on voit bien les deux. Hein. Et de l'autre... le chaland. Il y a un autre aspect que je voudrais donner qui vient conforter l'aspect structurant, c'est que cette voie relie le Cantal, vous l'avez très bien dit, d'un côté, elle va se connecter avec de village en barrage.
Exactement.
Au pied du barrage de l'autre, et de village en barrage, c'est jusqu'à Argentat. Donc je pense que...
Elle est dans la continuité des sentiers pédestres de la Dordogne de village en barrage.
Tout à fait. Mais vous savez, on peut même voir au pied du barrage une connexion avec de village en barrage, qui elle a déjà été étudiée hein, par M. Girier, le président de village en barrage, et une autre connexion possible vers Val, la Siauve-Val. Donc ça veut dire qu'on a un potentiel.
Considérez-vous cette voie verte en devenir comme un levier économique en dehors du fait qu'il soit un levier touristique?
Oui, pour moi oui.
Vous l'avez dit, ça attire le chaland potentiel.
Pour moi, c'est un flux à gérer et à rediriger vers le centre-ville pour faire tourner nos activités économiques.
Voilà. Début des travaux d'aménagement prévus pour quand, Éric Ziolo?
Automne 2023, par les temps qui courent entre les coûts de l'énergie et le reste, je serai prudent, je ne veux pas décevoir, on va dire, allez, automne 2023, début 2024.
Et si je me réfère à votre revue municipale de janvier dernier, et toujours dans la continuité de notre échange aujourd'hui, je note une place de choix dans votre plaquette pour une toute autre thématique, celle de l'hôpital Bortois, monsieur le maire.
Ah oui, bah écoutez, on a la chance d'en avoir un. J'ai la chance d'être président du conseil de surveillance et surtout, à cette occasion, d'être entouré par les gens qui font tourner l'hôpital. Et c'est là qu'on voit comment ils sont attachés à leur établissement et attachés à leur métier. Alors là, c'est plus qu'une richesse, c'est une chance unique d'avoir de tels établissements.
Parce que c'est extrêmement rare d'avoir un centre hospitalier sur un bassin de vie comme le nôtre.
Et alors là, si je dis que je suis attaché à la ruralité, il y a quelque chose où là que j'arrive pas à tordre, c'est cette idée que quand on n'y croit pas à fond, on en parle, mais on met pas les moyens en face. Mmh. Si, d'aventure, les gens qui parlent d'un hôpital de proximité et les autorités, tout ce qu'on veut, qui s'occupent de ces établissements, savent pas mettre les moyens en face pour les faire tourner, là je dis qu'ils ont tout faux, tout faux. Donc c'est pas le cas, mais je dis ça parce que on voit tellement un discours d'un côté et des actions de l'autre, je l'ai vécu aussi pour l'école, donc à chaque fois qu'on peut le répéter, vous parlez de ruralité, faites ce qu'il faut pour les aider. Et l'hôpital, franchement, il y a un potentiel avec les gens qui s'en occupent, les médecins et le personnel soignant qui est dedans, mais c'est très bien.
Et à noter que cet établissement de santé, remarquablement porté encore une fois par l'investissement des acteurs de cette structure, bénéficie aujourd'hui d'un label certification mettant en avant la qualité des soins.
Exactement, qui a été renouvelé il y a très peu de temps. Hein.
Et à noter aussi que chaque mois, l'établissement de santé Bortois prend l'antenne sur RBA avec l'émission très écoutée
très
L'Hôpital à cœur ouvert, produite et présentée par Laetitia Chemin, responsable qualité service au centre hospitalier Bortois, qui était là avant moi tout à l'heure pour l'enregistrement de la prochaine émission. On pourrait continuer d'échanger sur votre commune, monsieur le maire. Cependant, vous l'avez bien compris, le créneau pour aujourd'hui risque d'être largement dépassé. Je vous propose un autre rendez-vous, un autre face-à-face, entre guillemets, avec nos auditeurs. Cependant, on va fermer cet entretien sur une note estivale. Le 17 août prochain, Bord-les-Orgues accueille la troisième étape du 56e tour du Limousin.
Du Limousin. Alors, c'est peut-être pas un scoop, mais allez, je peux vous le dire, j'ai l'autorisation. L'arrivée se fera aux Orgues.
Très bien.
Voilà, avec un double passage d'embord et arrivée aux Orgues. Donc, il faut en profiter.
56 ans pour ce tour. Notre âge, monsieur le maire, c'est une jeune, très jeune épreuve sportive. Donc, on dit que ce Tour du Limousin a été renommé Tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine pour faire plaisir aux élus. Alors, je terminerai sur cette question. Vous, en tant qu'élu, Éric Ziolo, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?
Ah, écoutez, moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir l'accueillir. On n'a pas raté l'occasion. Et je peux vous dire que ça sera celle, encore une fois, de valoriser la ruralité et Bord-les-Orgues. Alors, en Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs, j'en sais rien. Mais je le sais, en tout cas. Mais peu importe, ça sera la ruralité et Bord-les-Orgues. Ce jour-là, on va le faire savoir.
Merci, Éric Ziolo, maire de Bord-les-Orgues.
Merci à vous beaucoup. RBA FM, Auvergne-Limousin.